Attention, attention, heurage moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Et oui, il est 6h avant minuit, on se mercredi 18 juin 2025. Vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Quelle bonne idée! Et j'en remets une couche sur le jeu concours du moment. C'est l'association Pengal Alayam, une asso qui vient en aide aux femmes et filles indiennes victimes de violences, qui organise deux journées de découverte de la culture indienne. C'est les 27 et 28 juin prochains à Janzé. Ça s'appelle le Fest India. Pour l'occasion, vous pouvez gagner une place pour le spectacle de danse et de musique indienne du Fest India. C'est le samedi soir à la salle du Jansieg. Pour jouer, vous avez besoin d'un mot de passe.
Le temple des femmes.
Merci Enora. Le temple des femmes, c'est la signification de Pengal Alayam en tamoul. Pour jouer et pour gagner, bien sûr, rendez-vous sur c-lab.fr. Tout de suite, le flash d'Enora.
Victoire au Parlement du Royaume-Uni. Oui, j'avais envie de commencer ce journal avec une bonne nouvelle.
Quelle bonne idée.
Après un débat de 2 heures et une vive émotion, les députés britanniques ont dépénalisé l'avortement au-delà de la limite des 24 semaines de grossesse. Pour le journal The Guardian, c'est le plus grand pas en avant depuis 60 ans. Désormais, les femmes qui mettent un terme à leur grossesse en dehors des règles fixées, c'est-à-dire au-delà de la limite de ces 24 semaines ou via l'achat de pilules abortives en ligne, ne seront plus sous la menace d'une arrestation, voire d'une peine de prison. Ces dernières années, 6 femmes ont été emprisonnées pour des avortements tardifs au Royaume-Uni. Que va faire Donald Trump? Alors qu'il demande à l'Iran une capitulation sans condition, le président des États-Unis laisse planer une potentielle intervention militaire en soutien à l'État hébreu. Trump sème la discorde et au sein même de son propre camp. Quand certains s'opposent, d'autres l'encouragent. Mais s'il y a bien quelque chose que nous avons appris des premiers mois de mandat trumpien, c'est que cet homme prend ses décisions seul. Il laisse de côté experts et alliés jusqu'à sa propre administration. Le guide suprême iranien assure cet après-midi que toute entrée des États-Unis dans le conflit provoquerait des dommages irréparables. Plus chaud, plus sec et avec plus de feu, c'est ainsi que la climatologue Lola Kaur résume nos étés d'ici à 2050 dans les colonnes de Mediapart. Si la canicule de 2019 avait atteint par endroits 46 degrés, les prochaines pourraient bien dépasser les 50. Des vagues de chaleur plus longues, plus intenses et à la fois plus précoces et plus tardives, de la fin du printemps à l'automne. Une conséquence de la crise climatique où la trajectoire d'un réchauffement d'au moins 2 degrés d'ici à 2050 ne semble plus être un mirage. L'adaptation est de mise et l'aménagement du territoire une priorité. Végétation, aération et matériaux réfléchissants pour éviter les îlots de chaleur, c'est ce que la scientifique préconise. Bruno Retailleau lance sa campagne d'adhésion au parti Les Républicains. Sur les affiches des corps de métier, pompiers, policiers, agriculteurs et médecins, il y a un slogan « La France des honnêtes gens ». Au même moment, une vaste opération de contrôle dans les gares, les trains et les bus débute. Aux commandes, le même Bruno Retailleau. Elle doit durer jusqu'à demain et lutter contre l'immigration irrégulière. L'association humanitaire de défense des personnes exilées, Utopia 56, dénonce, elle, une grande campagne de discrimination raciale et d'abus de pouvoir. Un sentiment partagé par l'organisation antiraciste La Marche des Solidarités, qui appelle toutes et tous à ne pas laisser faire ces contrôles et à les filmer. En France, le racisme ordinaire persiste. C'est le bilan du rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme publié aujourd'hui. Décryptage par Anthony.
En effet, l'Institut note une baisse de la discrimination dans l'Hexagone. Mais par quel indicateur a été effectué ce sondage? Il s'agit de l'indice longitudinal de tolérance, un baromètre utilisé par la Commission depuis 35 ans. Ce baromètre évalue chaque année l'évolution des préjugés racistes, antisémites, et xénophobe dans la société française. Pour cela, il prend en compte les remontées statistiques de plusieurs ministères, les procédures judiciaires et les enquêtes en cours, mais aussi la parole de personnes de différentes communautés. Selon l'indicateur, la tolérance est en hausse de 1 point pour 2024. Plus concrètement, le score de l'indice longitudinal de tolérance est de 163 sur 100, troisième meilleur score depuis 1990. La commission souligne aussi l'approbation des citoyens et citoyennes concernant les politiques de lutte contre les discriminations. Plus de 75% d'entre elles et eux estiment que, je cite, « une lutte vigoureuse contre le racisme est nécessaire en France ». une bonne note à relativiser. En effet, la CNCDH alerte certaines populations sont encore victimes de préjugés importants, comme par exemple les Roms perçus comme un groupe, je cite, à part par 59% des Français et des Françaises. Le rapport note aussi une importante polarisation générationnelle. Les jeunes générations adhèrent moins aux clichés racistes, leur niveau de tolérance est en progression, là où celui des anciennes générations stagne ou baisse. Si le baromètre indique que la forme la plus crue du racisme est en net recul dans l'opinion, la croyance en la supériorité de certaines races est quand même toujours partagée par 5,2% des personnes interrogées. Le racisme ordinaire, lui, perdure. Des préjugés persistent, blâmant notamment l'immigration pour les problèmes sociétaux. Selon le rapport, le sentiment anti-immigré est plus corrélé aux formes de haine. Plus on rejette les immigrés, plus on rejette les personnes perçues comme juifs, musulmanes, asiatiques, roms, noirs, et plus on s'oppose à l'égalité entre femmes et hommes, souligne l'instance consultative. Des opinions ayant des fortes conséquences sur la santé mentale des victimes. Pour 56% d'entre elles et eux, les discriminations liées à leurs origines, couleur de peau ou religion ont un impact plutôt important ou très important. La mise en place de stratégies d'évitement ou la résignation des personnes peut provoquer, selon le rapport, des troubles anxieux, du stress chronique, de la dépression ou même un syndrome post-traumatique.
Selon cette commission, 1 200 000 personnes se déclarent chaque année victimes d'une atteinte à caractère raciste ou antisémite en France. Deux étudiants du groupe de l'école privée d'art Icône à Rennes témoignent dans les colonnes de Ouest-France de leur désillusion à leur sortie d'école. Ceux à qui l'on avait promis un secteur en plein essor et un réseau foisonnant se retrouvent face à un avenir bouché et un carnet de contacts vide. Si l'école promet 80% d'insertion, seuls deux camarades à eux sur les 30 de la promotion ont trouvé un emploi. La seule chose qu'ils se sont trouvés, c'est des amis, mais des amis à 30 000 euros, ça fait cher. Les enseignantes et enseignants dénoncent également le climat délétère qui y règne, alors que le groupe admet être engagé dans 5 contentieux au prud'homme, dont l'un d'entre eux pour insuffisance professionnelle après qu'une chargée de communication ait refusé une rupture conventionnelle. L'avocat d'une dépliante a quant à lui identifié plus d'une vingtaine d'affaires concernant le réseau. Non à la loi Duplon, c'est l'appel lancé par la Confédération paysanne. Demain à 14h, sur l'esplanade Charles de Gaulle, se réuniront agriculteurs, syndicats, associations environnementales et citoyens-citoyennes venus de toute la Bretagne. Derrière ce slogan, une colère, celle de la possible réautorisation des néonicotinoïdes, un insecticide utilisé dans l'agriculture intensive. La vitrine d'une loi dont ses ambitions se révèlent plus larges, du soutien au projet des mégabassines à celui de l'élevage industriel. Alors que la FNSEA se félicite du texte, la Confédération paysanne a déjà annoncé 24 nouvelles heures de mobilisation les 29 et 30 juin prochains, jour auquel la loi doit être discutée en commission mixte paritaire. Le samedi 14 juin dernier a eu lieu le défilé fantastique du Triangle, organisé par Bruce Schiffard, champion du monde de breakdance, un défilé chorégraphique à déambuler au quartier du Blône et de Bréquigny à Rennes. De nombreux ateliers ont aussi été organisés dans le cadre de cet événement, danse bien sûr, création de costumes, mais aussi cuisine. Anthony s'est rendu à l'un de ces ateliers cuisine, on le suit.
Voici Clara-Nès Froment, coordinatrice du Petit Blonneur et de l'atelier cuisine, qui va nous parler des ateliers cuisine.
En fait, on est plein de partenaires à travailler avec le défilé fantastique, mais nous, effectivement, on est uniquement sur la cuisine. Donc, comme tous les ans, le Triangle offre le goûter pour les enfants qui ont participé aux animations et là, notamment au défilé. Et il y a un apéro aussi pour 500 personnes, pour commencer un peu à finir ou débuter la soirée ou finir la fête, je ne sais pas trop, mais le Triangle offre un apéro. Et donc là, aujourd'hui, on est en train de cuisiner et le goûter et l'apéro pour demain.
Voici Louise Benasseur, bénévole, qui va nous dire ce qui a été concocté en cuisine.
Préparer des samoussas, des crêpes, des belandas, là. Et on a préparé aussi des épinards et des oignons qu'on va mettre dans des petites crêpes. Et on a préparé farce breton abricot, farce breton pruneau qu'on a fait. Et là, on va faire des cakes aux fruits. Parce que le thème cette année, c'est plutôt les fruits pour le dessert.
Voici Stéphane, qui participe aux ateliers cuisine, va nous faire un petit témoignage.
Moi, j'ai été à l'atelier crêpes. On a fait 110 crêpes avec une camarade. On s'est bien amusé.
La convivialité, l'ambiance et l'esprit d'équipe étaient au rendez-vous durant les ateliers cuisine. Quel régal!
Merci Anthony, vous pouvez réécouter notre émission diffusée samedi dernier en direct du cortège depuis notre super Radio Cadiz sur c-lab.fr.
Merci Nora, ils ne sont pas policiers ou boulangers mais nous recevons d'honnêtes gens tout de suite dans 6h avant minuit.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
T-shirt noir avec des petits motifs en forme de vache, je crois, sur la poche. C'est Sam, musicien, producteur et vidéaste. Et puis, t-shirt du Velvet Underground avec la banane. C'est Alan, musicien et vidéaste, tous les deux membres du collectif Terrain Vague. Bonsoir.
Bonsoir.
Salut.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment est né le collectif Terrain Vague et qu'est-ce que vous faites dans ce collectif ?
Bah, vas-y Alan, c'était...
Ouais, le collectif Terrain Vague, en fait, c'est une association à la base qui est assez ancienne, que j'avais créée avec une amie à Paris, surtout pour faire de la production associative audiovisuelle. Donc c'était plutôt des films d'art vidéo, on va dire, d'expérimentation de films en tout genre. Et ensuite, on l'a récupéré avec des amis quand je me suis installé dans le Finistère Sud pour faire un spectacle de théâtre de rue, un mélange de karaoké et de théâtre qui s'appelle le Karaoke Show, qui est toujours en cours de création. Et les membres du spectacle font toujours partie du collectif. Et ensuite, avec Sam, quand on s'est rencontrés à Rennes, et même un peu plus tard, on s'est retrouvés sous des envies communes, je pense, de faire de la musique et de la diffuser. Et aussi, ce qui est important dans le collectif Terrain Vague, c'est qu'il y a une grosse part de diffusion de vidéos, de films. Et on a aussi cette pratique commune de faire des vidéos. Et en fait, on mélange aussi nos lives musicaux avec de la projection de vidéos.
Vous parlez beaucoup d'expérimentation et moi je me demandais quelle est la place dans la création expérimentale dans un monde où l'IA arrive. Est-ce que pour vous l'utilisez comme un outil dans vos créations ou est-ce que ça vous fait un peu peur, vous avez un peu peur de vous faire remplacer, de quel œil vous voyez ça?
Je pense que nous on est un peu la team réac par rapport à ça, donc non, on l'utilise pas du tout. Après, on va pas rentrer dans un discours technophobe. C'est, je pense aussi, il y a pas mal de choses qu'on connaît pas par rapport à ça, mais je pense que pour le moment, on est plus dans un truc où on en a peut-être un peu des œillères, où on est dans le déni, mais on préfère s'en passer et être convaincu qu'on peut faire ça, en tout cas, qu'on n'a pas besoin de ça. Mais voilà, peut-être que le discours, si la pensée s'ouvrira par rapport à ça.
Mmh. Ouais, je te rejoins. Et puis c'est vrai que même on sent vraiment, ça fait quand même partie de nos envies communes, c'est des valeurs qui sont écologiques et donc de sobriété, mais aussi dans notre manière de penser nos pratiques artistiques. Et j'ai l'impression que l'IA, il y a quand même aussi quelque chose. Enfin, on sait que le numérique est hyper polluant. Et du coup, pour nous, pour l'instant, petit collectif, c'est plus évident de ne pas polluer quand on organise un événement, quand on enregistre de la musique, quand on produit un film. Mais voilà, en tout cas, on essaie de mettre vraiment ça au cœur de nos actions. Et je pense que l'IA, elle va contre ça. Et même dans la sobriété, on peut faire des choses très sobres, je pense, avec l'IA. Mais il y a un truc où moi, je réfléchis aussi de plus en plus à faire de la musique qui ne nécessite pas d'électricité. Alors que je viens plutôt d'un... sur du Velvet, de rock, donc des amplis de guitare branchés qui consomment l'électricité. Et ça, toi, tu fais de la musique électronique, mais qui reste aussi, je trouve, sobre.
Vous parlez d'écologie, il y a une dimension militante dans ce collectif aussi, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Ouais, totalement. Déjà, ça passe par, sur les deux événements qu'on a déjà organisés, et c'est celui qui arrive à la ferme de Quincey la semaine prochaine.
On va en parler.
C'est important pour nous de mélanger la pratique artistique et ce qu'on organise avec le côté militant, parce que nous, c'est des valeurs qu'on porte et auxquels on adhère dans nos vies personnelles, mais qu'on a aussi envie de porter à travers notre art et le collectif. Donc on a déjà invité Rennes Palestine.
Événement est en fait lié un peu à une asso.
Ça. Alors, c'est pas forcément, l'événement n'est pas forcément, porte pas une thématique qui est en lien avec l'association, mais c'est en tout cas l'occasion d'inviter une association, de lui donner une place et mettre en avant ce qu'elle fait, une place pour aussi... parler, présenter leurs actions.
Le premier événement, juste pour compléter, du coup, mais oui, l'Agence française pour la Palestine de Rennes était invitée. Et pour le coup, toute la caisse d'entrée libre leur revenait. Et ils ont fait une prise de parole, ils avaient un stand toute la soirée, ils ont diffusé un film. Voilà. Mais en tout cas, on essaye, autant que faire se peut, de pas juste mettre un nom sur une affiche, mais que ça fasse vraiment partie de la programmation, sans que ça définisse la direction artistique de l'événement, comme tu le disais.
Et comment vous choisissez ces associations? Il y a eu donc Utopia 56 aussi. Est-ce que vous, en collectif, vous décidez, cet événement, on a envie de mettre à l'honneur tel asso? Comment vous faites votre choix?
Ça se fait assez, pour l'instant, naturellement. Oui, donc Utopia 56, et merci d'en avoir parlé précédemment. Là, c'est une asso, par exemple, dans le collectif. On est trois à être bénévoles dans l'association. Donc du coup, forcément, dans nos actions avec l'association, on se rend d'autant plus compte des besoins de l'asso. Et en décembre, quand on a fait un mini terrain vague au Marquis de Sade, c'était en fait grande période de froid, l'hiver qui battait son plein. Et du coup, on a voulu faire une récolte de dons parce que pour l'asso et pour les nécessitaires, parce que en fait, ils étaient au parc de la Touche, beaucoup de personnes en exil. Et les conditions étaient évidemment hyper précaires, et d'autant plus avec l'hiver, il y avait eu de la neige qui était tombée, il faisait hyper froid, donc ils avaient vraiment besoin de vêtements chauds, donc on a vraiment ciblé l'événement là-dessus. Rennes-Palestine, c'était en lien avec aussi l'actualité, forcément, de ces deux dernières années. On a regardé, et puis en fait on voyait les agissements de Rennes-Palestine à Rennes, et on a décidé de vraiment les mettre à l'honneur et d'essayer de les soutenir comme on pouvait. Et là, pour l'événement qui arrive, je te laisse prendre la parole, Sam, peut-être.
Oui, donc on réinvite pour la seconde fois Rennes-Palestine et également le planning familial. Donc pour le moment, on n'a pas communiquer dessus, c'est pas officiel parce que c'était encore un peu en stand-by.
Scoop.
Pour le planning familial, oui, c'est une exclu.
C'est un scoop. Ouais. Ça a été confirmé il y a peu, qu'on lance la programmation. Mais donc, il y aura le planning familial qui sera également présent.
Et j'en profite, du coup, petite parenthèse, mais pour parler de leur publication récente là sur les réseaux. Ils ont des grosses coupes budgétaires, toutes les antennes du planning familial. Donc, évidemment, c'est cool de pouvoir en parler là. Et on apporte notre soutien, bien sûr.
Donc, les prix d'entrée seront reversés à ces deux assos?
Alors là, pour le coup, donc l'événement, pour en parler, même si on va y revenir, mais à la ferme de Quincey, là, le 27 juin, c'est une entrée libre. L'argent, il revient au collectif. C'est la deuxième fois qu'on fait ça. Et on propose aux stands d'associations présentes plus de faire donc des prises de parole, d'animer des ateliers, de faire de la prévention et d'avoir une caisse de dons aussi. Le planning familial, je sais qu'ils ont pour habitude aussi de vendre un peu des objets qu'on peut acheter pour apporter son soutien à l'asso. Mais voilà,
ce sera plutôt sous forme de stand.
Ouais, c'est exactement.
Une présence. Ouais.
C'est aussi pour se faire une trésorerie avec notre asso.
Donc vous l'avez dit, le mini terrain vague, le terrain vague numéro 1, c'était au Marquis de Sade en décembre. Là,
Je me suis trompée. C'était le numéro 2 en décembre, mais le numéro 1 était également au Marquis de Sade. Nos deux premiers événements étaient au Marquis de Sade.
Okay. Merci à lui pour son accueil d'ailleurs.
Donc là, vous serez à la ferme de Quincey avec des artistes, parce que vous êtes aussi label, maison de production. Mais on pourra y revenir. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire un peu rapidement le programme? Quels artistes sont attendus à la ferme de Quincey?
Oui. Alors, sur l'aspect musical, donc, il y aura 5 artistes et groupes. Donc, ça débutera avec le duo Adornos, donc, qui est un duo de guitare et chants classiques, notamment beaucoup des chants hispaniques, d'Amérique latine, etc., chants traditionnels.
Elles ont joué au Babazoula vendredi dernier. C'était hyper beau.
Ouais, très très beau. Deux artistes de hyper doués, formation conservatoire et tout, trop forte. Et ensuite, il y aura Moïse Aimé, donc Alan ici présent, qui présentera son live guitare-voix, donc anti-folk, comme il l'appelle.
Unplugged, folk. Du coup.
Alors c'est...
Ah, pas encore.
C'est en cours de réflexion, voilà, il faut que je me décide parce que c'est la semaine prochaine, mais oui, en gros, j'hésite encore, guitare acoustique ou guitare électrique. Mais il n'y a qu'une voix et une guitare.
Si tu veux présenter la suite.
Oui, bah ouais, du coup, après, ce sera donc le groupe Herschel. C'est un groupe que moi j'avais découvert l'été dernier au Tabor dans le cadre des concerts organisés par le Jardin Moderne. Mmh. Au Tabor, c'est les dimanches pendant l'été. Et c'était trop bien, j'avais trop aimé. En fait, je venais un peu là par hasard, il me semble. Et j'avais trop aimé leur énergie. Elles sont... Il y a un côté assez... Je trouvais qu'il y avait un côté hyper garage dans ce qu'elles faisaient, alors qu'elles n'en parlent pas forcément, elles, dans leur... support de communication, donc peut-être je me trompe, mais c'est un peu ce que j'avais ressenti. Et ouais, elles avaient une patate, enfin je sais pas, peut-être, je pense que ça se trouve, j'étais pas hyper en forme ce jour-là, et ça m'a donné le sourire, j'étais là, ouais c'est trop bien, et on était en pleine réflexion justement pour programmer des groupes pour notre premier événement, donc je les avais contactés directement après, et elles étaient pas disponibles, du coup bah là c'était l'occasion de leur redemander, elles sont là, donc c'est trop bien. C'est une formation qu'elles sont trois, elles définissent plus leur musique comme de folk rock.
Qu'on connaît bien ici à Rennes 2 parce qu'elles ont participé au tremplin il y a quelques années, mais au tremplin musique actuelle.
Yes, trop bien.
Elles ont joué au tambour, je crois.
Ouais. Ouais. Elles sont revenues pour les 10 ans du tremplin cette année.
Trop bien.
Ok, trop cool.
Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite ?
Ensuite, on a Sens qui est à ma droite. Donc, Sens, bah, je vais essayer d'en parler un petit peu et puis après tu me. Mais bah moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est de la musique donc, électronique, ambiante, formation solo. Et bah, c'est très... Justement, on parlait de... Enfin, moi, en fait, en tout cas, comment je le sens, mais ça me touche parce que je trouve que c'est hyper proche de la nature. C'est une musique qui est hyper organique, alors qu'elle est faite qu'avec des instruments électroniques. Et c'est pas du tout une critique, hein, bien au contraire. Mais justement, je trouve ça hyper beau et d'autant plus touchant et fort d'arriver à faire quelque chose en prise avec le vivant, avec des instruments qui ne sont purement électroniques. On sent que c'est marqué par des territoires, des grands espaces, de là où tu viens. j'aime bien le dire quand je parle de ta musique, mais ça me vient de la Drôme. Et j'ai découvert la Drôme l'été dernier, et c'est magnifique, c'est trop beau, c'est hyper sauvage. Comme ta musique, c'est hyper libre comme ta musique. Oui, c'est d'ailleurs électronique libre, tu dis un peu.
Oui, c'est vrai, oui, pour pas vraiment définir, mais d'étiquette.
Et voilà, en tout cas, du coup, c'est un peu progressif cette programmation, et c'est très différent, mais ça, on en parlera aussi de. Enfin, si on peut et si on a le temps. Mais on termine après avec Gare Sud, peut-être tu veux en parler, Sam.
Oui, donc Gare Sud.
C'est toi qui l'as découvert en plus.
Ouais, pour le coup, on le connaît pas encore dans la vraie vie, mais on a découvert ce qu'il faisait. Via les plateformes, réseaux sociaux, etc. Et on a vraiment accroché parce que du coup, on a, avec Alan, on a aussi un duo de DJ qui s'appelle Claqué au sol, avec lequel on a joué plusieurs fois dans des bars à Rennes. Et en fait, dans ce que fait Gare Sud, on a vraiment retrouvé ce que nous, en tout cas, on kiffe quand on mixe et dans ce qu'on aime bien dans les DJ sets, côté hyper éclectique et naviguer un peu entre les genres et les intensités et tout, mais quand même avec une forme de cohérence un peu globale, mais sans, enfin après je vais pas dire enfermé, mais sans se cantonner à un seul genre, on va dire. Et puis en plus, lui il navigue dans des styles que nous on aime beaucoup, tout ce qui est enfin, assez dark, cold wave, punk, dark disco, ce genre de choses. Et donc voilà, on l'a contacté, puis il était chaud, donc... Donc voilà, ça va être aussi un peu une découverte pour nous, mais je pense qu'on n'a pas de doute sur le fait que ça va être trop bien pour nous.
Et je crois qu'il n'y aura pas que de la musique, j'ai cru comprendre qu'il y a des stands aussi, de tricot, de bijoux, c'est ça ?
Tout à fait, ouais.
C'est des artisans, artisanes locales du coin ?
Oui, vas-y si tu veux.
Oui, donc il y a deux stands de créatrices, Inès Destresse, qui habite dans le Finistère Sud, Terrain Vague en fait, où on essaye aussi de... On organise des événements, mais on fait d'autres choses. Et on essaye d'être un peu où on peut. Et donc, il y a une antenne dans le Finistère Sud, on va dire. Peut-être un jour dans la Drôme. Mmh. On va dire que le vivier est quand même à Rennes. Et donc, Inès Destresse, elle a fait des bijoux qui sont très, très beaux. Vous pouvez les découvrir sur son Insta. Bon, je fais un peu de la pub pour Meta, pardon. C'est là-dessus qu'on communique. Mais en tout cas, et elle, donc, elle les crée avec des bijoux. N'importe quoi, avec des coquillages, des choses qu'elle trouve sur la plage, et avec de l'étain qu'elle fait fondre, et elle fait des formes avec, Et du coup, il y a un côté un peu, je trouve, bijou post-apocalyptique, un peu futuriste, mais avec des... Enfin, ouais, c'est hyper cool. Et voilà, donc il y a des boucles d'oreilles, des colliers, des bagues, voilà, plein de choses. Des bijoux, cool. Des bijoux qui piquent, mais qui sont faits avec douceur, je crois, comme elle dit un peu. Et il y a Justine JTBKNIT.
JTBNIT.
JTBNIT, pardon, pour son blaze. Si tu veux la présenter.
Oui, donc là, c'est une tricoteuse donc, qui tricote uniquement avec de la laine rustique et de seconde main, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il va être là pour présenter son travail, donc vendre des petits articles qu'elle a produits, donc je crois notamment des chouchous, des petites écharpes, et aussi proposer aux intéressés une petite formation en tricot pour celles et ceux qui aimeraient découvrir cette pratique qui mérite d'être un peu plus connue, qui a cette vertu de revenir à un truc un peu plus slow quand même et méditatif. Et donc, c'est... Voilà, c'est...
Des stands du coup qui seront juste à côté de ceux de Rennes Palestine et du planning familial.
Voilà. Ouais, c'est ça,
tout à fait.
Ok, et puis peut-être avant de finir cette interview, on peut évoquer votre activité aussi de label musical, d'accompagnement artistique. Puisque vous pouvez nous en dire quelques mots.
Pour le moment, c'est plus. Pour l'instant, c'est beaucoup centré autour de nos deux projets musicaux, Alan et moi. Enfin, du coup, trois si on compte notre duo de DJ. Et aussi le groupe que a Alan avec Eric, qui est un ami à nous, qui aimerait plus s'investir dans le collectif, mais avec la distance géographique, pour le moment, c'est un peu compliqué.
C'est en construction.
Mais donc, pour le moment, c'est vraiment axé sur nos projets musicaux à nous, mais c'est aussi en train de se faire sur notamment... Adornos, donc qui est Juliette, qui en fait partie, l'air libre, c'est aussi la deuxième fois qu'elle joue pour un événement Terrain Vague. Donc c'est aussi voilà, fédérer un peu les artistes qui au fur et à mesure vont collaborer avec nous et pouvoir apporter aussi des compétences, des pratiques qu'on a autour de ces projets-là, que ce soit de la production, de l'enregistrement, de l'accompagnement, ce genre de choses, mais un peu créer une identité commune, une direction artistique que nous en tout cas on applique déjà sur nos projets à nous, mais qu'on demande à ouvrir à d'autres projets qui nous intéressent en tout cas.
Nickel, ben, on pourra écouter certains de ces projets pour Terrain Vague 2.
C'est
le vendredi 27 juin dès 18h à la ferme de Quincé et c'est à prix libre. Merci.
Tout à fait, merci beaucoup pour l'invitation.
6h avant minuit.
C'est l'heure de la chronique Lumière Basse de Maëva.
Et oui, c'est encore moi pour la troisième fois déjà. Bon, installe-toi, coupe les notifs, laisse ton cerveau en mode réceptif. On repart, pas pour du grand spectacle, ni pour te vendre du rêve, plutôt pour rallumer une lumière douce, posée quelque part entre le regard et le cœur. Bienvenue dans Lumière Basse, ici on ne débriefe pas des super productions, on écoute des silences, on regarde des films qui avancent à hauteur d'humain. Et cette semaine, c'est un film de battements discrets qui nous appelle, un cinéma qui ne cherche pas l'effet, pas de poudre aux yeux, mais de la lumière sous la peau. Et cette lumière-là, c'est chez Josa Enjambe, Elle brûle doucement, une réalisatrice qui filme sans détour, sans emballage et qui donne à voir, à ressentir ce qu'on ne montre pas souvent. Josa, elle ne meuble pas l'écran, elle le dépouille, elle le cadre juste, elle regarde juste, elle capte la lumière humaine même quand elle est faible, elle fait du cinéma avec la force du réel, avec la justesse d'un battement et c'est pour ça qu'on reste scotché à ses films. Avant la fiction, il y a le docu, avant la caméra de cinéma, il y a le micro de journaliste. Josa, c'est 10 ans de journalisme avant d'oser la bascule. En 2011, elle prend une caméra en autoproduction, budget minimal mais une nécessité brûlante de raconter.
De fil en aiguille, j'ai pu fréquenter à la fois les plateaux de télé, faire des interviews, faire des reportages, etc. Et puis à un moment donné, je m'ennuyais parce que... ce que je faisais ne me correspondait pas trop. Alors un jour, j'ai dit, OK, j'achète une caméra. Je suis partie pour faire des docs que j'ai auto-financés, auto-produits. Et je me disais, si ces docs-là sont sélectionnés dans un festival, je continue.
Elle commence seule, sans plan de carrière, mais avec cette urgence intérieure que certains appellent vocation. Et c'est comme ça qu'elle signe Massage à la Camerounaise. Un premier geste intime, un film sur la tradition, les gestes du soin, l'héritage. Puis vient Crump. Là, elle filme un groupe de danseurs à Paris. Pas une performance figée, mais une énergie brute, une pulsation de survie. On y sent déjà ce qui sera sa signature. Un regard sans jugement, une caméra qui épouse le mouvement au lieu de l'observer de loin. Elle ne fait pas de documentaire sur, mais avec. Dans tous ces documentaires, pas de voix off explicative, pas de pathos, juste une confiance absolue dans ce que les corps, les visages et les silences racontent. Josa ne filme pas pour meubler l'écran, elle scrute, révèle, capte la lumière humaine invisible. Elle l'écrit, l'invisible, la couleur de peau, le poids du silence, la fierté d'exister. Et dans ses premiers gestes documentaires, elle a trouvé plus qu'une voix, une manière de voir. Un regard qui écoute, qui épouse le silence autant que la parole, et ce regard-là, elle ne l'a jamais lâché. Alors en 2016, quand elle passe à la fiction avec le bleu, blanc, rouge de mes cheveux, c'est le même fil qu'elle tire, mais tressé autrement, plus écrit peut-être, mais toujours aussi vrai.
C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui est née en France, qui vit dans une famille camerounaise et qui excelle plutôt à l'école et qui souhaite acquérir la nationalité française. Mais son père en fait s'oppose à ce qu'elle devienne française parce que lui, il a été déçu par cette France qui ne reconnaît pas souvent les qualités, les diplômes des gens qui sont ici de la première génération. Donc lui, c'est quelqu'un qui a des rancœurs à l'égard de la France, qui est plutôt son pays d'accueil, et elle, sa fille, c'est son pays de naissance. Donc ça parle de cet espace où on a deux générations qui vivent sur un même territoire, qui est la France, et qui n'ont pas le même regard sur cette France-là.
Plus, t'as pu passer à la préfecture ?
Ouais, mais il faut que j'y retourne avec la carte de séjour de papa.
Pourquoi la mienne ne suffit pas ?
Ah, il faut les deux obligatoirement.
Papa ?
Oui.
C'est quoi la préfecture ?
Mange.
C'est là où tu iras faire ta carte d'identité française quand t'auras ton bac, comme moi.
Mais je croyais que j'étais camerounais.
Mais t'es surtout français puisque t'es né ici.
Et pourquoi je peux pas être les deux ?
Tu poses trop de questions, Djibril. Puis de toute façon, c'est comme ça. C'est la loi, faut choisir.
Papa ?
Ça suffit avec cette histoire.
Mais papa, on avait dit que je pouvais faire ma demande après le bac.
Il n'y a pas de mais, papa. Tant que tu vivras chez moi, tu feras ce que je te dis de faire.
C'est l'histoire de Seyna, 17 ans, française d'origine camerounaise, qui veut obtenir la nationalité française. C'est tout. Pas de rebondissement spectaculaire, juste ça, une ado, ses rêves, ses cheveux et un père qui résiste. Et pourtant, tu restes cloué. Parce que c'est écrit avec délicatesse, parce que les non-dits font du bruit. Le bleu, blanc, rouge ne claque pas ici comme un drapeau, il s'infiltre dans une conversation, un malaise, une coiffure afro. Il devient symbole, question, conflit intime, et au lieu d'imposer un discours, Josa pose une ambiance dense, tendue, mais humaine. Et puis vient Baltringue en 2018, là on change de décor, c'est un ancien détenu, un jeune noir qui tente de réintégrer un club de boxe. 20 minutes d'une tension sèche, tendue comme un muscle qu'on serre pour ne pas trembler. Peu de mots, beaucoup de silence et Alassane Diong, immense, magnétique, ce personnage-là tu ne le lâches pas des yeux. Il est rugueux, fatigué, digne, il encaisse. Face à lui, un autre garçon, un regard, une présence, une tension muette, comprimée, rentrée, battue avec les poings. Baltringue, c'est pas juste un film sur la réinsertion, c'est un film sur ce moment précis où quelqu'un se demande « Est-ce que j'ai encore une place ?» Pas une place dans la société, une place dans la vie. Imaginons, tu regardes Baltringue, plan fixe, il respire fort, il se tient mal, il veut s'asseoir mais n'ose pas. La lumière est crue, comme en salle de sport, tu vois la sueur, tu entends son cœur, et toi t'es là, devant ton écran, mais dedans avec lui, il ne dit pas grand-chose, et pourtant il te raconte tout. La honte, la rage, le besoin de rester debout.
En faisant Baltringue, j'ai voulu faire un film sur la question de l'enfermement. À la fois de l'homophobie intériorisée, ça conduit loin quand on exerce des violences à son propre endroit en fait. Et la question fondamentale à travers cette histoire d'amour, c'est de comprendre comment on peut briser ces barrières-là pour enfin s'épouser quoi, et être en paix avec soi quoi. Donc c'était vraiment ça l'idée de départ du film.
Je me sens libre.
Et bon fermé.
Ouais, ça.
C'est ça, le cinéma de Josa en jambes, une émotion tenue, pas de cordes sensibles tirées, pas de violon. Ces personnages ne surjouent pas, ils existent, ils avancent en funambule. Sur ce fil tendu, entre fiction et réalité, on s'identifie, on s'accroche. Il y a des films qu'on admire pour leur technique, et puis il y a ceux qu'on aime avec les triples, ceux qui nous raclent un peu l'âme, ceux de Josa en jambes. Elle ne filme pas pour faire joli, elle filme pour qu'on entende quelque chose, une voix étouffée, une colère douce, une tendresse lucide. Et dans cette époque saturée d'images spectaculaires, ces 20 minutes de vie sont un souffle, une pause, un autre rythme. Un long métrage est en préparation, Abby Muzango. Mais même sans ça, Josa a déjà trouvé sa voix, son art, son exigence. C'est ça, son cinéma. Un mur de réalité qu'elle grignote, un espace où chaque plan devient confession. On ne parle pas ici de twist, mais de vérité. Elle ne fait pas de cinéma pour répondre à l'industrie, elle filme pour répondre à l'époque et à ceux qu'on oublie trop vite. Alors voilà, c'est tout pour moi. Mais en attendant, reste là encore un peu avec moi dans la lumière basse.
Merci Maëva, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Oui. Je crois que notre répondeur clignote, on l'écoute.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllabe, la radio sauvage.
Coucou l'équipe, c'est Benoît de Saint-Malo, fidèle auditeur de Syllabe. Oui, je permets de laisser un message sur le répondeur parce qu'il n'y a personne qui laisse un message dans le répondeur de l'émission. En vue de la fête de la musique ce samedi prochain, il y a un truc vraiment un peu une surprise que je vois là. Il y a l'artiste René Lupicica, donc l'ancien du collectif Colondagne. Il jouera ce samedi 21 juin à 18h à la place Saint-Germain, donc la célèbre place de Rennes où il y a le bar, le Saint-Germain, les petits papiers et puis bien sûr le petit restauration rapide Jupiter qui est pas trop mal en plus, donc voilà. Et il n'y a pas que le Pijika comme tête d'affiche, il y a plein de trucs pas trop mal, hein. Il y a un peu de house, un peu d'électro, un peu de garage, un peu de break, un peu de basse, voilà, un peu de techno, de trance, donc voilà, bon ben. C'est l'info que j'ai trouvé ça aujourd'hui, donc vraiment étonné que les deux bars de la place Saint-Germain organisent ce truc-là, et puis bien sûr la restauration rapide Jupiter, donc voilà. Donc si vous voulez vraiment voir un artiste local, comme Lupicica de Colombagne, et ben ça se passe le 21 juin à 18h, place Saint-Germain. Donc voilà. Alors après, je viens de voir aussi notre info pour la fête de la musique, bien sûr, au One's Pub, donc à la rue Georges Doutin, donc qui est juste à côté de la Vilaine. Et ben il y a l'artiste rennaise Argaloub qui joue ce samedi 21 juin. Alors je crois que c'est 18 ou 19 heures si je ne suis pas sûr, donc je pense qu'il doit jouer en même temps que le Pijika, donc si vous aimez plus le rap féminin, et ben il y a Argaloub qui joue le samedi 21 juin à 18h au One's Pub, donc voilà, donc c'était tout pour les infos, donc voilà, ben j'espère que mon message passe à l'antenne et puis je vous embrasse très très fort. Allez, gros bisous à vous, ciao.
Merci Benoît, la bise à toi. Et puis vous aussi, laissez-nous un message vocal. Je vous redonne le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. On vous écoute sur le répondeur de 6h avant minuit. Merci à Mazir pour la technique. À demain.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.